Judaïsme au féminin ? Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
Bonjour à toutes, Torah Box Radio depuis Jérusalem, bienvenue à notre émission Judaïsme au féminin. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de passer ce moment avec vous. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, qui ne connaissent pas encore notre émission, je suis rabbanite Léa Benaïm et j'ai la chance chaque semaine de vous proposer, donc d'analyser des différents thèmes du judaïsme, les fêtes, le calendrier juif, parfois aussi les parachiotes, en fait tout ça pour nous aider à nous les femmes à mieux vivre notre judaïsme, à mieux comprendre ce qu'Hachem attend de nous et à vivre une vie plus épanouie. En fait, c'est ça surtout qu'on veut, on veut être heureuse. Cette semaine, on va essayer donc de commencer un petit peu à comprendre c'est quoi ce mois d'Eloul, parce que c'est vrai que c'est un mois merveilleux, magnifique, très très riche, un mois magique. Franchement, c'est un mois magique. Et la semaine dernière, on a commencé à l'aborder en expliquant un petit peu le psaume 27 et qu'est-ce qui se cachait derrière ce psaume 27 qu'on lit pendant toute la période des Yamim Noraim. Et cette semaine, j'aimerais avec vous analyser un personnage, oui, un personnage clé du processus de la tshuva. Parce qu'on sait que le mois de Elul va nous préparer aux fêtes de Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot, et que le propre du mois de Elul est la tshuva. Et pour pouvoir réellement faire tshuva, il faut qu'on comprenne un certain personnage, comment est-ce qu'il fonctionne. Et vous savez quoi ? On va faire une petite pause de quelques minutes et je vous propose de me rejoindre juste après pour que je vous dise exactement de qui je parle et qui est-il ce fameux personnage tellement, tellement important dans ce processus de la tshuva. Donc quelques minutes, je vous rappelle que si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse mail radio@torah-box.com. A tout de suite.
Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbanite Léa Benaïm.
Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des Prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le gan, c'est la sotte de la Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le gan? C'est l'ichement, mitzvotah, de garder les mitzvot.
Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous. Question de Halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Question au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Question au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est deux nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.
Judaïsme au féminin ? Vivez votre judaïsme intensément avec la rabbanite Léa Benaïm.
Bonjour à à toutes et bienvenue dans notre émission Judaïsme au féminin. Donc juste avant la publicité, je vous avais annoncé qu'on allait aujourd'hui analyser un personnage clé du processus de la tchouva. Qui est-il ce personnage ? Je vais commencer par une parabole. Et en fait, il s'agit donc d'un homme qui doit passer une frontière. Et lorsqu'il arrive à la douane, il arrive en vélo avec deux gros sacs de sable de part et d'autre, donc de son vélo. Évidemment, le douanier lui demande qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs. Et l'homme lui répond tout simplement et il lui dit c'est du sable. Le douanier, ça lui paraît un petit peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'il amène du sable d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre ? Et bon, il se dit ok, je vais laisser, c'est du sable. Et donc, il le laisse passer. Le lendemain, ce même homme arrive de nouveau à la frontière et de nouveau, il a avec lui deux gros sacs de sable. Là, le douanier, il commence un petit peu à se poser des questions et il demande d'ouvrir les sacs pour vérifier qu'il n'y a pas autre chose dans les sacs. Le douanier, il voit, ça a vraiment l'air d'être du sable, ok, bon, elle est passée. Troisième jour, l'histoire se reproduit. De nouveau, notre ami passe sur son vélo avec les deux sacs de sable. Et là, le douanier, il s'est dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je vais aller envoyer ce sable être vérifié au laboratoire pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui se cache dedans, qu'est-ce qu'il essaye de passer comme ça à la frontière. Et il fait vérifier le sable et c'est réellement du sable. Il voit qu'il n'y a rien d'autre que du sable. Et bon, comme ça, les jours passent et tous les jours, notre ami traverse comme ça la frontière avec deux gros sacs de sable. Et les années passent. 20 ans après, ces deux hommes se rencontrent autour d'une bière, dans un bistrot. Et le douanier, il n'est plus douanier puisqu'il n'y a même plus de frontière entre ces deux pays. Et ils se mettent donc à se rappeler leurs souvenirs. Tu te rappelles que tu passais comme ça tous les jours avec deux gros sacs de sable sur ton vélo et je me demande pourquoi est-ce que tu faisais ça ? Ça m'a toujours intriguée. Et notre ami qui lui dit c'est vrai, je peux te le dire maintenant, parce qu'il n'y a plus de frontières et puis tu n'es plus douanier, etc. Écoute, je t'avoue que je passais des vélos. C'est pas des sacs de sable que je passais. C'était des vélos. Chaque jour, je passais un vélo d'un pays à l'autre. Et tu t'en es même pas aperçu parce que tout ce que tu voyais, c'était les sacs de sable. Tu t'es même pas aperçu en vérité qu'il s'agissait de vélos. Je passais des vélos, frauduleusement. Cette parabole, elle nous est racontée en vérité pour nous apprendre à nous méfier. Donc, qui est-il ce personnage ? Il s'agit du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est très 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 sournois. Parfois, on ne sait pas du tout qu'il s'agit d'un Yetzer Hara. Il a toutes sortes de déguisements. Et en fait, pour pouvoir faire tchouva, il faut d'abord et avant tout le découvrir. Il faut d'abord et avant tout comprendre qu'il a des stratagèmes, à chaque fois différents. Ces stratagèmes, ils sont différents d'une personne à l'autre. Ils sont différents d'une période à l'autre. Ils sont différents d'une ville à l'autre. Et c'est très important d'apprendre donc un petit peu par rapport à tout ce que les sages nous ont appris sur lui, parce que c'est vrai que beaucoup ont écrit sur le Yetzer Hara, tout ça pour nous aider à le débusquer, pour nous aider à comprendre qui est-il, parce que c'est lui en vérité. Il faut bien comprendre que le Yetzer Hara, il s'agit donc d'un envoyé de Dieu. Pour nous mettre des bâtons dans les roues, ça paraît pas sympa, n'est-ce pas ? Mais en vérité, le Yetzer Hara est là pour nous permettre d'être meilleurs, pour nous permettre de nous surpasser, pour nous permettre d'être des gens meilleurs à travers le fait de surmonter donc, les obstacles qu'il met sur notre chemin. Et les Chachamim, les sages, ils nous aident beaucoup à travers donc, différentes explications à comprendre certaines de ces techniques, de ces tactiques pour en vérité savoir comment l'affronter. Et donc, si le mois de Elul est le mois de la tchouva, on ne peut pas parler de tchouva tant qu'on n'a pas compris qu'on a quelqu'un ici à qui on a à faire une guerre. On a une guerre à faire. Dans le Chovot HaLevavot, Rabbeinu Bechaye, dans le livre Les Devoirs du Cœur, il nous explique que la relation qu'on a avec notre Yetzer Hara, c'est une relation de guerre. On sort en guerre contre lui. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que la paracha de la semaine s'appelle Kitetsé. Et les premiers mots de la paracha sont « Kitetzel amilchama » lorsque tu sortiras en guerre. Et donc après, on explique réellement, lors d'une guerre physique, qu'est-ce qui se passe. Et les sages, ils nous disent « Sachez que cette guerre, c'est également la guerre spirituelle qu'un juif, il a à affronter tous les jours. Tous les jours, un juif, il a une guerre. Depuis qu'il ouvre les yeux le matin jusqu'à ce qu'il va se coucher le soir, il est en guerre contre son Yetzer Hara qui essaye de l'empêcher d'être lui-même. » C'est quoi, c'est-à-dire quoi lui-même ? De permettre à sa parcelle divine de s'exprimer. Et donc, le Yetzer Hara, il vient, il va lui mettre des bâtons dans les roues. Et c'est très important de l'étudier, l'analyser. Et en vérité, le fait de comprendre certains de ces stratagèmes, ça va nous permettre de savoir, ça, c'est le Yetzer Hara, ok ? Je comprends qu'il s'agit ici du Yetzer Hara. Et donc, j'ai plus de force pour pouvoir le contrer. Rabbi Menachem ben Shlomo Ameiri, qui est niftar en 1315, a écrit dans son Sefer Amidot « Ayedia bedavar sheura chetsia tshuva ». Ça veut dire quoi cette phrase ? Ça veut dire « savoir d'une chose qu'elle est mauvaise, c'est déjà la moitié de la tshuva ». C'est énorme. Alors, lorsqu'il parle de la moitié, on peut dire 50%, 50% de la tshuva, c'est déjà savoir qu'une chose, elle est mauvaise. Pour vous dire à quel point c'est important de savoir lorsque je commence à avoir certaines pensées, lorsque certaines paroles proviennent du Yetzer Hara. Si je suis consciente qu'il s'agit ici du Yetzer Hara, déjà, quelque part, je vais ressentir « il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui n'est pas bon pour moi ici. » Qu'est-ce que je fais ? Je regrette. Déjà un petit peu, même si je ne sais pas encore comment m'en sortir, je ne sais pas comment encore réagir différemment, je ne sais pas encore comment est-ce que je vais penser différemment, mais déjà, j'ai la prise de conscience. Et le Sefer Amidot de Rabbi Menachem ben Shlomo Ameiri nous dit « c'est déjà la moitié de la tshuva ». C'est énorme et c'est très important à savoir. Il faut savoir également qu'il y a des comportements qui sont donc négatifs et néfastes pour nous et pour notre lien avec Hachem. Et on ne le sait pas. On ne le sait pas. Parfois, on est tellement habitué à certaines attitudes que là aussi, la prise de conscience, elle est énorme. Elle est énorme. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples de ce que je suis en train de vous raconter. D'abord, il faut savoir qu'il y a des chachamim qui ont comparé le Yetzer Hara à une mouche. Pourquoi une mouche ? Parce qu'une mouche, vous savez quoi ? C'est un insecte qui vient nous embêter, tantôt à droite, tantôt à gauche, d'un endroit à l'autre. Ce n'est pas toujours au même endroit et on essaye de s'en débarrasser tout le temps. Et Rahamim, ils nous disent, le Yetzer Hara, c'est un petit peu comme ça. Tantôt, il vient par là, tantôt, il vient par là, tantôt, il t'envoie une pensée comme ça, tantôt, il t'envoie une pensée comme ci. Et c'est énervant, comme une mouche, c'est énervant. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été écrites sur qui est le Yetzer Hara, comment comprendre ces ruses, parce qu'il s'agit réellement de ruses. D'ailleurs, Shlomo Ameler nous dit, Betar boulot assez milchama. Fais la guerre avec des ruses. De nouveau, si le Yetzer Hara, il utilise des ruses, nous aussi, on va devoir utiliser des ruses contre lui. Mais on n'est pas encore à ce stade, on est au stade d'essayer de comprendre certaines de ces ruses. Alors, il faut savoir qu'il y a une des ruses du Yetzer Hara qui est très dangereuse. Et pour la comprendre, je vais vous raconter plusieurs histoires. La première histoire, c'est Aradin. Donc, à l'époque du Hafetz Chaim, où on voit que le Hafetz Chaim était pour lui, c'était très important que l'extinction des feux du Beit HaMidrash ait lieu à 22h. Et 22h, 22h30. Et donc, les élèves du Hafetz Chaim sont venus le voir en lui disant « Rav, on en vient encore d'étudier un petit peu le soir. Des fois, on n'a pas terminé. On sent l'impression que c'est un petit peu tôt. Bon, évidemment, on parle d'une autre génération. On parle d'un autre monde. Les élèves du Hafetz Chaim voulaient étudier plus. Et donc, ils sont venus demander l'autorisation au Hafetz Chaim de laisser les lumières du Beit HaMidrash allumées plus longtemps. Et le Hafetz Chaim a refusé en leur disant, vous savez mes élèves, vous savez mes enfants, ce que vous êtes en train de me demander, c'est ce qu'on appelle Atzat Ayetzer, c'est le conseil du Yetzer Hara. Mais comment ça ? On veut étudier plus, en quoi est-ce que ça peut être le Yetzer Hara ? Alors le Hafetz Chaim qui leur répond, écoutez, si vous étudiez plus tard, vous allez être fatigué. Mais comme je sais que vous êtes des tzadikim, c'est sûr que vous allez vous lever à temps pour la tfila, j'ai pas de doute là-dessus. Et si vous vous couchez tard, un jour, deux jours, trois jours, vous allez moins dormir. Vous allez dormir pas assez de temps. Vous allez vous coucher tard, vous allez vous lever tôt, vous allez tenir comme ça une semaine, deux semaines, trois semaines, et puis au bout d'un mois, vous allez être faible. Votre système immunitaire, il va être affaibli. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous risquez de tomber malade, ou vous risquez d'être affaibli et de devoir rester au lit. Alors, si vous êtes affaibli et que vous restez au lit, le Yetzer Hara, il aura gagné quoi? Il vous a fait gagner une demi-heure, une heure tous les soirs, mais il vous a fait perdre deux semaines d'alité malade. Et pire que ça encore, si vous tombez réellement malade, vous allez devoir aller en ville. Vous allez devoir aller en ville pour voir le docteur. Et vous savez, là-bas en ville, le Yetzer Hara, il saura quoi faire avec vous. Parce que c'est vrai que Radin, c'est un petit village, il n'y a pas beaucoup de tentations, les élèves sont à la yeshiva. Mais le Chafetz Chaim, il savait que si les élèves quittent la yeshiva et vont voir le médecin en pleine ville, là, le danger, il est beaucoup plus grand. Parce qu'en pleine ville, il y a beaucoup, beaucoup de tentations et il avait peur pour ses élèves. De cet exemple, on apprend qu'il y a un Yetzer Hara qui se déguise en Yetzer Hatov. Qui nous, en vérité, c'est cette phrase que j'aime bien lorsqu'on dit « le mieux est l'ennemi du bien », ça veut dire « on veut faire plus ». On veut faire mieux, mais en vérité, c'est dangereux. Parce que ça risque de nous mettre dans une situation, c'est pareil, une femme, lorsque parfois elle veut recevoir beaucoup, beaucoup de monde Shabbat pour faire une grande, grande arnasat torim, mais qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner qu'elle va être fatiguée, qu'elle va être nerveuse avec ses enfants, qu'elle va être... pardon. Qu'elle va être en colère contre son mari. C'est quoi? De nouveau, c'est le Yetzer Hara qui se déguise en Yetzer Hatov, le Yetzer Hatov qui se déguise en Yetzer Hara, excusez-moi, qui veut nous faire croire que il veut nous pousser à faire des choses positives, mais en vérité, ça va nous amener à fauter par derrière. C'est très, très, très sournois. On voit ce même exemple avec Moshe Rabbeinu lorsque Moshe Rabbeinu frappa le rocher. Vous savez qu'on nous raconte que Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de parler au rocher. Et Moshe a frappé le rocher. Lorsque Moshe a frappé le rocher, on nous raconte que c'était une faute, que c'était une erreur de sa part, si on peut se permettre de parler comme ça de Moshe Rabbeinu, et que le fait d'avoir frappé sur le rocher, ça a entraîné que Moshe reçoit une punition qu'il ne pourra pas rentrer en Eretz Israël. Mais pourquoi est-ce que Moshe a frappé sur le rocher? Il y a plusieurs explications là-dessus. Il y a beaucoup de commentateurs qui expliquent cet acte, parce que c'est évident que Moshe ne fait pas n'importe quoi. Si Moshe il a décidé de faire autre chose que ce que Dieu lui a demandé, c'est qu'il y a une raison. Et donc, un des commentateurs explique. Avant cette histoire, Hachem avait demandé, donc plus tôt dans l'histoire, lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, il y avait également une histoire de rocher et d'eau. Et là, c'était pour le puits de Myriam. Là-bas, Dieu avait dit à Moshe de taper sur le rocher. Et Béhémeth, à ce moment-là, Moshe avait tapé sur le rocher et l'eau avait coulé du rocher. À présent, donc maintenant, cette fois-ci, Dieu demande à Moshe, maintenant, tu ne vas pas frapper sur le rocher, mais tu vas lui parler. Et Moshe Rabbeinu, dans sa grande modestie, puisqu'on sait que Moshe, c'est la anava, l'humilité par excellence, Moshe, il se dit, mais si maintenant je parle au rocher et de l'eau coule du rocher, qu'est-ce qu'ils vont se dire les Juifs? Qu'est-ce qu'ils vont se dire les Bnei Israël? Lorsqu'il s'agissait du rocher de Myriam, il fallait le frapper. Il fallait donc que ce soit plus actif, plus fort comme acte. Et lorsqu'il s'agit maintenant de l'eau de Moshe, il suffit de parler. Quelque part, Moshe avait peur que cela risque d'entraîner aux yeux des Bnei Israël une dépréciation du niveau de Myriam. Et donc, selon ce commentateur, la raison qui a poussé à Moshe à frapper le rocher et non à parler au rocher comme Dieu lui avait demandé, c'était pour protéger l'honneur de Myriam, c'était pour quelque chose de bien. Malgré ça, qu'est-ce qu'ils nous disent les sages? Lorsque Dieu demande quelque chose, on ne pose pas de questions. Parce que lorsqu'on commence à réfléchir et à, en vérité, c'est ce que j'ai expliqué jusqu'à présent, il y a ici quelque part un Yetzer Hara qui s'est déguisé en Yetzer Hatov, qui veut nous faire croire qu'il s'agit quelque chose de bien. Et même Moshe Rabbeinu, le plus grand homme de tous les temps, a quelque part failli à ce niveau-là. Donc, on va faire une petite pause. Mais je voulais juste terminer sur ce mot. il y a un Yetzer Hara qui se déguise en Yetzer HaTov et il faut faire très attention et être très prudent et avoir comme ça, être en éveil et faire attention. Voilà. Donc, je vous retrouve juste après les musiques et à tout de suite.
אבל מה שאז קרה לא אשכח לעולם בן אדם מישהו גדול וחזק חטף מידי ענק שנתן לי אבא אוי אבא מה תגיד האם תסלח האם תקביל זה כואב
pour judaïsme au féminin, notre émission donc que j'ai la chance de vous présenter toutes les semaines, Baruch HaShem. Donc cette semaine, nous avons commencé à parler du Yetzer Hara. Donc je l'ai appelé un personnage très très sournois, une mouche selon certains des Chachamim. Et on a expliqué donc avant la pause combien est-ce qu'il fallait faire attention à ce fameux Yetzer Hara qui parfois se déguise en Yetzer HaTov en nous faisant croire que ce qu'il nous propose, c'est bon. Je vous ai ramené avant la pause un exemple avec Moshe Rabbeinu, un exemple avec les élèves du Hafetz Chaim. Je vais vous ramener encore ici un troisième exemple qui est un exemple très très fort et il s'agit de l'exemple de la faute d'Adam et Chava. Lorsque le Yetzer Hara est venu, c'est le serpent. Le serpent est venu proposer à Adam et Chava de manger du fruit interdit. Quel a été son argument? L'argument du Yetzer Hara a été de convaincre Adam et Chava que s'ils mangeaient de ce fruit interdit, ils arriveraient à mieux servir Dieu qu'avant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en vérité, de nouveau, il s'est déguisé. Pourquoi ? Parce que Adam et Chava étaient d'un niveau très très élevé. Ils étaient très très proches de Dieu. Ils n'avaient pas de mal en eux. Le mal était à l'extérieur d'eux. Et ce mal, il vient et il est convaincu que s'ils veulent encore mieux servir Dieu que ce qu'ils ne le servent à présent, alors ça vaut le coup pour eux de goûter du fruit interdit, parce que dans ce cas-là, en goûtant de ce fruit, ils vont se rentrer le mal à l'intérieur d'eux et ils auront le libre arbitre de pouvoir faire le choix du bien. Et lorsqu'ils seront donc à ce niveau de pouvoir faire le bon choix, ils seront à un niveau encore plus élevé. Donc quelque part également, là, on voit combien est-ce que le serpent était sournois, combien est-ce que ce Yetzer Hara, parfois, il est capable de nous tourner la tête et de nous faire croire que ce qu'on veut faire, qui nous paraît bien, au bout du compte, nous, on a des bonnes intentions, mais au bout du compte, ça va nous amener à quelque chose de mal, ça va nous amener à fauter, ça va nous amener à nous éloigner de la vérité du Emet et d'Hachem. Donc, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, c'est important, c'est même vital de comprendre certains des comportements du Yetzer, des comportements, des stratagèmes, des ruses du Yetzer Hara pour pouvoir être préparé. D'accord ? Et c'est, je vais donner l'exemple de cette femme, et ça nous arrive tout le temps. On a envie de compléter une chaîne de Tehillim, et donc on rentre dans une chaîne de Tehillim, et on sait que parallèlement, on doit aller rendre visite à notre mère qui est malade, et que ça, on est limité au niveau du temps. Okay ? On aimerait bien faire plein de choses, plein de mitzvot. Vous savez, les femmes, on a un très bon fond. On est vraiment des tas de cagnottes. Hein. C'est pas peu dire. Lorsque je vois autour de moi toutes ces femmes, combien de choses elles font, combien d'actions pour la Géoula, combien d'actions pour approcher les gens, combien d'actions de recettes, c'est extraordinaire. Mais parfois, il faut être sensible et se demander, attention, si je fais ça, est-ce que réellement, c'est ce qu'Hachem il attend de moi ? Et c'est une question qu'il faut se poser. C'est une question qu'il faut se poser régulièrement. Est-ce que c'est ce qu'Hachem il attend de moi ? Et ça demande un travail de hitbonenout, comme on dit en hébreu, de réflexion. Ça demande une réflexion, ça demande beaucoup d'honnêteté. Toujours lié à la faute de Adam et de Chava, je vais maintenant vous dévoiler un autre des stratagèmes du Yetzer Hara. On a parlé donc du premier déguisement. Et maintenant, je vais vous dévoiler un autre stratagème qui est très très dangereux également. Et de nouveau, là aussi les femmes, on est capable de se laisser prendre au piège, mais grave. Alors, c'est quoi ? Il s'appelle ce stratagème l'imagination ou l'imaginaire. En hébreu, dimayon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, et voilà, je vais vous ramener l'exemple de Adam et de Chava, où de nouveau on voit ce stratagème être utilisé par le serpent. Lorsque le serpent est venu tenter de convaincre Chava de manger du fruit interdit, il lui a dit « Regarde ce fruit comme il est bon ». En vérité, Sforno là-bas, le commentateur Sforno, il a appelé là-bas le Yetzer Hara, le Nahash, il l'a appelé « Dimayon », il l'a appelé « Imagination ». Pourquoi ? Parce que le serpent a amené Chava à s'imaginer manger du fruit interdit. Il y a écrit là-bas dans les textes « Nechma de la marée » qu'il était bon à voir. En fait, à travers le fait de pousser Chava à s'imaginer manger de ce fruit, c'est ça qui a, en vérité, au bout du compte, fait tomber Chava, l'imagination, l'imaginaire. Combien de fois est-ce qu'on tombe dans une mauvaise imagination? On s'imagine des choses que les gens nous font. On s'imagine, on se fait des films. En vérité, vous savez qu'on est des metteurs en scène. Tous, on est des metteurs en scène, mais les femmes en particulier. Mais des metteurs en scène, mais grave. On est capable de se faire des films entiers sur quelque chose qu'on aurait vu, quelque chose qu'on aurait entendu, quelque chose qu'on pense, que la personne pense. Et là, c'est le moment de mâmache brandir et de dire stop, de brandir le bâton et de dire stop, stop à l'imagination, stop à l'imaginaire. Arrêtons d'imaginer le mal. Arrêtons d'imaginer combien que cette personne, elle cherche à nous faire du mal. Arrêtons d'imaginer, il y a aussi l'imagination de ce qui va se passer de mal, ça aussi, l'imagination négative de ce qui peut se passer, qui nous rentre dans un mode d'éloignement d'Hachem, de manque d'émouna. Vous savez, parfois, beaucoup dans le relationnel, parce qu'on ne peut pas parler de tshuva, donc on en reparlera également dans les prochaines émissions, on ne peut pas parler de tshuva sans aborder la notion donc, de ben adam, la chavero, des relations, du côté relationnel entre les juifs, ce qu'on appelle ve'ahavta le'reacha kamocha zeklal gadol batora, d'aimer son prochain, c'est un grand principe de la Torah. Et c'est vrai que dans nos problèmes relationnels, l'imaginaire est très très présent. On s'imagine beaucoup de choses sur les autres. On s'imagine beaucoup de choses sur ce que les autres pensent de nous, ce que les autres auraient dit, ce qu'on aurait, pourquoi est-ce que les autres se sont comportés comme ça, etc. etc. Et là-dessus, je vous conseille. Le Baal Shem Tov, il a un grand chidouche et un grand secret à nous dévoiler. Il nous dit, un homme ne peut pas penser deux marchavot, deux pensées en même temps. Donc, lorsque vous sentez que vous êtes en train de partir dans un film avec des séries même, avec des épisodes de « il m'a dit, elle a fait, il est venu, elle est partie, et si, et, simple, et si seulement, et si simplement. » Et vraiment, lorsqu'on sent qu'on est en train de se rentrer dans une imagination négative qui va nous faire du mal, qui va nous amener parfois même à dire du lashon hara, qui va nous amener à en vouloir à quelqu'un, etc. Alors, je vous propose d'appuyer sur le bouton « pause ». Stop. On arrête ce film et on passe à autre chose. Ça veut dire quoi, passer à autre chose? On pense à autre chose. Bien sûr, c'est important aussi de juger favorablement, on en reparlera. Parfois, c'est ce qu'il faut faire. Parfois, c'est regarder la situation, regarder le problème relationnel que je rencontre et essayer de juger donc la personne qui est en face de moi positivement. Parfois, il faut simplement changer de chaîne. Passez à d'autres pensées complètement. Pensez à quelque chose que vous devez organiser, quelque chose que vous devez cuisiner, quelque chose que vous devez gérer. Mais pas ne pas penser à ce personnage ou à cette chose-là qui vous amène quelque part, à vous éloigner d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de pensées négatives. Et que avant tout acte, il y a la pensée. Avant tout sentiment, il y a la pensée. C'est au niveau de la pensée qu'il faut combattre le yetzer hara pour pouvoir éviter d'arriver à des actions ou à des paroles négatives. Donc ça, c'était le deuxième déguisement du yetzer hara. Le premier, on a dit qu'il se déguise parfois en yetzer hatov. Le deuxième, faites attention à votre imagination débordante. D'ailleurs, vous savez que l'imagination, ça peut être quelque chose de très très positif. Et on peut faire beaucoup de mitzvot avec l'imagination, on en reparlera un jour, mais il faut savoir que ce n'est pas pour rien qu'Hachem nous a donné cette force de créativité et d'imagination. Juste pour l'exemple, on nous dit par exemple qu'il y a une mitzvah de s'imaginer le moment de Mahamad Arsinaï, le moment où Dieu a donné les lois, les tables de la loi, les louchot au Bnei Israël, de s'imaginer donc ce grand, grand, grand moment où tous les juifs étaient autour du mont Sinaï, etc. Voilà, on a la possibilité d'utiliser, de sanctifier cette force qui s'appelle la force de l'imaginaire pour le bien. Lorsqu'il s'agit du mal, on fuit ou on met une autre pensée à la place. Troisième déguisement du yetzer hara, l'habitude. Oh là là, l'habitude. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de faire quelque chose qui est interdit. Pourquoi? Parce qu'on en a tellement, tellement l'habitude. Il y a des gens, par exemple, qui trichent à des examens. Et parfois aussi, c'est l'habitude et parfois aussi, c'est parce qu'on ne sait pas que c'est interdit. Tricher. Ou bien une femme qui rentre du travail le soir et qui raconte à son mari ce qui s'est passé au travail, qui c'est qui a fait quoi, qui c'est qui a dit quoi. Ou l'inverse, un homme qui raconte à sa femme. Là aussi, il peut avoir des problèmes de la chonara et on se dit « mais non, je raconte à mon mari, j'ai besoin de me confier, je raconte à ma femme, c'est normal ». Là aussi, parfois on a l'habitude, parfois on n'est pas conscient, parfois on ne sait pas. Donc il y a beaucoup de fautes qu'il suffit en vérité d'apprendre, il suffit d'être conscient. Parfois, par exemple, il suffit d'apprendre les ilchot du lashon hara pour savoir comment, qu'est-ce qui est permis de dire à mon conjoint, qu'est-ce qui n'est pas permis de dire à mon conjoint. Parfois, on parle de nos enfants à nos parents. Là aussi, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit Il faut réfléchir à tout ça. Il faut se poser des questions. En vérité, vous allez voir, on expliquera que la tchouva, c'est se poser des questions. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour casser aussi cette habitude? Bon, alors, bien sûr, il y a l'habitude aussi des choses qui sont difficiles à surmonter parce qu'on est conscient qu'ils ne sont pas bons, on est conscient qu'ils nous éloignent d'Hachem, mais on a trop l'habitude, et ça, on verra après la pause, qu'est-ce qu'on fait, hein, on verra à l'occasion pendant ces différentes émissions, qu'est-ce qu'on fait pour changer nos habitudes. Ça va également être un sujet qu'on va traiter. Mais pour l'instant, je parle des choses dont on n'a pas conscience. Vous savez aussi, ou bien qu'on ne sait pas au niveau de la halakha. Par exemple, parfois on mange un aliment et on ne sait pas si on a mangé la quantité suffisante pour faire la bracha achrona. Et bien vous savez que c'est quelque chose qui s'apprend également. Il y a des livres par exemple, j'ai un livre par exemple qui s'appelle Akazaït HLM, c'est un livre où il y a plein de photos de combien est-ce qu'il faut de chaque aliment pour faire la bracha achrona, la bracha qu'on fait après avoir mangé la quantité nécessaire de l'aliment, ou bu également. Je me rappelle qu'on avait, avec mon mari, pris un verre en plastique et on avait fait un petit trait pour savoir, voilà, ça c'est la quantité de liquide, d'eau ou de jus qu'il faut pour pouvoir faire la bracha achrona si on l'a bu d'une traite. C'est des choses qu'il faut apprendre, c'est des choses qu'il faut savoir. Et là, je vous recommande vraiment d'avoir un rav, de poser des questions à un rav. Aujourd'hui, Baruch HaShem, on a plus d'excuses. On a des rabbanim qui répondent toute la journée. Et ce que je vous propose également comme conseil pour contrer donc ce fameux Yetzer Hara de « on a l'habitude, on ne sait pas ce qui est permis, on ne sait pas ce qui est interdit », de prendre un cahier. Et à chaque fois que vous avez une question, vous la posez et vous notez la réponse. Vous allez me dire pourquoi noter la réponse? Parce que d'expérience, vous allez oublier les choses. On oublie parfois. Et lorsque les choses sont notées, en vérité, vous êtes en train de vous écrire votre propre cahier d'Halakha avec vos propres questions à vous. Et vous allez pouvoir retrouver des réponses même quelques années après. Et c'est tellement enrichissant de se rendre compte combien est-ce que la Halakha, elle est juste, elle est droite, combien est-ce que les rabbanim, ils savent répondre, ils comprennent, combien est-ce qu'ils sont pleins, ils sont imprégnés de la Torah. Donc, pour contrer ce Yetzer Hara, apprendre, se rendre compte, être conscient, étudier aussi. Vous pouvez acheter des livres, les livres qui traitent des sujets. Se choisir également un guide d'étudier 2 halakhot par jour. Ça aussi, c'est un conseil qui est donné et qui aide contre ce fameux Yetzer Hara de « on a l'habitude, on ne sait même pas ce qui est permis et ce qui est assaut ». Donc, j'espère que jusqu'à présent, vous me suivez. Je vous propose une petite pause. Je vous rappelle que si vous voulez nous écrire quelque chose, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse mail suivante radio@torah-box.com. Et je vous propose une petite pause et on se rejoint tout de suite après.
Retrouvez tout de suite Judaïsme au féminin avec la rabbanite Léa Benaïm.
Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fêtes juives, biographie. Chaque mois, c'est deux nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site ToraBox à tout moment pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions ToraBox, des livres sur mesure pour vous. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbanim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent l'halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbanim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Question Rav, un service exceptionnel, gratuit, pour vous.
Judaïsme au féminin, vivez votre judaïsme intensément. Avec la rabbanite Léa Benaïm.
Rebonjour pour cette troisième partie de notre émission Judaïsme au féminin. J'espère que vous êtes toujours là, je suis contente de vous retrouver. Et on continue. On a expliqué jusqu'à présent combien est-ce qu'on devait faire attention de comprendre qui est le Yetzer Hara, comment il nous tourne la tête, quels sont ses stratagèmes, quelles sont ses ruses. On en a ramené plusieurs jusqu'à présent, j'espère que vous nous suivez. Et là, j'aimerais avec vous aborder un quatrième, des stratagèmes du Yetzer Hara. Et d'abord, je vous recommande de lire un livre très intéressant. Je vous recommande un livre qui s'appelle « Plan de bataille », écrit par les Rabbaniot Heller et Rigler. C'est un livre, en vérité, qui traite que du combat contre le Yetzer Hara. Et c'est intéressant parce que j'espère que je vous ai donné envie juste de comprendre à quel point est-ce qu'il est sournois et futé et combien est-ce qu'il a d'armes dans ses mains pour nous faire tomber. Mais en vérité, c'est beaucoup plus que ce que je suis en train de vous dire. Donc je vous propose réellement d'étudier et de comprendre qui il est pour pouvoir être meilleur et pour pouvoir faire tshuva. Donc dans leur livre, les Rabbaniot Rigler et Heller, elles ramènent le Maharal de Prague, qui a un chapitre, un traité, ce qui s'appelle « Le pouvoir du Yetzer Hara ». Et il nous ramène là-bas, il commence donc ce traité avec une citation des Proverbes de Shlomo Ameler qui nous dit comme ça. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car ainsi tu attises des charbons sur sa tête et Hachem t'en récompensera. Alors, l'ennemi, selon le Maharal, donc c'est le Yetzer Hara, on l'a bien compris jusqu'à présent, il se caractérise toujours par la faim et la soif. Ça veut dire quoi la faim et la soif? Ça veut dire par le manque. Ça veut dire quoi le manque? Il y a une voix à l'intérieur de nous, parce qu'il faut bien comprendre que Yetzer Hara, il est aujourd'hui à l'intérieur de nous. Pas comme à l'époque de Adam et Chava où il était extérieur à eux. Aujourd'hui, il est à l'intérieur de nous. Et le Yetzer Hara, il s'agit donc d'une voix à l'intérieur de moi. Une voix, la mauvaise voix qu'il faut apprendre à découvrir. Et donc, il y a une voix qui est la voix du manque. Cette voix qui dénonce le manque. Et elle nous explique, donc le Maharal nous explique, que cette voix, elle nous dit « Tu n'as pas ce dont tu as besoin. » Et en vérité, les Rabbaniot Heller et Rigler ramènent beaucoup d'exemples là-dessus. Elles disent qu'il a des milliers de versions, ce manque. Par exemple, elles disent « Je n'ai pas de conjoint, donc bien sûr je suis déprimée. » Ou « J'ai un mari, mais il ne comprend pas mes sentiments. » « J'ai une femme, mais elle ne s'occupe pas assez de notre foyer. » « Je n'ai pas d'enfants, je n'arrive donc pas à mener correctement ma vie. » « J'ai des enfants, mais ils ont des difficultés scolaires. » « Mon fils ne sera pas accepté dans une bonne yeshiva ou un bon lycée. » Tout ça, ce sont des exemples, donc des différentes expressions de ce Yetzer Hara du manque. Il nous manque tout le temps quelque chose. Je continue. « Ma fille a désespérément besoin de trouver un chidour, de trouver une âme sœur. » « Je n'ai pas assez d'argent pour acheter une maison. » J'ai une maison, mais elle est trop petite. Vous comprenez ce que ces exemples veulent dire? À chaque fois, on tombe dans « il me manque quelque chose ». Et en vérité, pourquoi est-ce que c'est lié de Sarah? Je vous donne encore quelques exemples et je vais vous expliquer ça. J'ai une maison, mais elle est trop petite. Ma maison, elle est très grande, mais il me faut absolument une nouvelle cuisine. Ma maison, elle est trop grande, j'arrive pas à l'entretenir toute seule. Mon travail ne me rapporte pas assez, ou bien j'ai un travail qui paie bien, mais je n'ai pas un bon patron. On peut continuer comme ça à l'infini. Et en vérité, pourquoi est-ce que c'est tellement dangereux ce sentiment du manque? C'est parce qu'un manque va amener forcément à des plaintes, va amener à de la tristesse, va amener à des critiques. Et en vérité, lorsque je ressens le manque de quelque chose, très très vite, j'en arrive à accuser quelqu'un. Parce que c'est pratique d'accuser, d'accord? Lorsque j'accuse quelqu'un, quelque part, j'accuse pas Dieu parce que j'ose pas accuser Dieu de ce qui m'arrive. Donc, c'est plus facile pour moi d'accuser mon mari que d'accuser le bon Dieu, Chas v'Shalom. Donc, je me mets à accuser l'autre. Ça entraîne de nouveau des problèmes relationnels. Je peux accuser mes enfants, mon mari, mes enfants, mes parents, mon patron, mes voisines, tout celui qui est autour de moi. Il peut être celui vers qui je vais retourner ma colère, mon sentiment de manque. Et en vérité, ce sentiment, cette expression du Yetzer Hara, c'est en réalité l'expression d'un manque de Emouna. Parce que qu'est-ce que la Emouna vient nous dire ? La Emouna vient nous dire, tu as exactement ce qu'il te faut. Dans les moindres détails, tu as exactement ce qui est bon pour toi. D'ailleurs, vous savez que dans les Birkot HaShachar le matin, lorsqu'on fait les brachot le matin, une des brachot, on dit « She'asali kirkol tzorki » qu'il m'a fait tout ce que j'ai besoin, tout mon besoin. Est-ce que réellement, on pense que Dieu nous a fait tout ce que nous avons besoin ? Honnêtement, non. Honnêtement, je suis sûre que si on donnait une feuille et un stylo, je vous donnais maintenant une feuille et un stylo, vous me ferez une liste de toutes les choses que vous pensez avoir besoin et que vous n'avez pas. Ok ? Eh bien, qu'est-ce que le Maharal nous apprend ? Sachez que ces pensées sont le fruit du Yetzer Hara. Et moi, je vais vous dire la vérité, je trouve que c'est ici une bombe ce qu'on vient de nous dire. Combien est-ce qu'on ressent qu'il nous manque quelque chose ? Tout le temps. Tout le temps, il nous manque quelque chose. Tantôt, c'est une tenue et tantôt, c'est de la reconnaissance de la part des enfants. Tantôt, c'est des vacances. Il n'y a plus de fin. Et en vérité, puisque ce sentiment de manque m'amène quelque part à être triste, m'amène à en vouloir à Dieu, à en vouloir à autrui, parfois à m'en vouloir à moi-même. Je ne suis pas capable de gérer mon budget, donc il me manque ce qu'il me faut pour acheter. Je ne suis pas capable de travailler suffisamment pour gagner suffisamment, donc il me manque ça. Je ne suis pas assez sociable pour avoir des amis, donc il me manque des amis. Je ne suis pas assez... Ok, on peut s'accuser de beaucoup de choses également. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est coupable. Donc, on est dans un état d'esprit de renfrogné, en colère, de malheureuse, de non épanouie. Et toutes ces pensées, le Yetzer Hara, c'est lui qui nous amène à les avoir. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour contrer ce sentiment de manque qui est tellement et présent parfois ? Alors, comme on l'a dit jusqu'à présent, déjà le fait de savoir, c'est beaucoup. C'est la moitié de la tchouva, la moitié de la réponse aussi. Okay ? Le fait de savoir que lorsque je sens qu'il me manque quelque chose, il y a ici le Yetzer Hara sournois. Et il ne faut pas oublier qu'on est en guerre, d'accord ? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en guerre ? Parce que lorsque je pense... Je suis en train de faire une guerre à quelqu'un qui veut me faire tomber. Et moi, je veux gagner. C'est ça le but du jeu. C'est un jeu. C'est le jeu de notre vie. Okay ? Et donc, lorsque je prends conscience que lorsque je ressens un manque, il y a ici le Yetzer Hara qui veut me faire tomber, alors je lutte. En tout cas, j'essaye de lutter. Okay ? Comment est-ce qu'on lutte contre ce sentiment de manque ? En développant en nous la reconnaissance de ce que nous avons. Et oui, toujours la Hakara Tatov, le Toda, la reconnaissance, c'est la clé à beaucoup de problèmes. C'est pas pour rien qu'un juif, lorsqu'il se lève le matin, il dit « Modé Ani » avant tout. Vous savez, en hébreu, normalement, on doit dire « Ani Modé », « Je remercie ». Comme par exemple, on doit dire « Je mange »,« Ani Ochel », tout ça je parle au singulier, ou bien « Je marche »,« Ani Oler », tout ça au singulier. On commence par le pronom et ensuite le verbe. Là, en hébreu aussi, comme en français. De la même manière qu'on dit « je mange », on dit « ani ochel ». Par contre, le mot « ani », on doit le dire à l'inverse. D'abord « moda » pour les femmes, au féminin, et ensuite « ani ». D'abord « remercier » et ensuite « je ». Pourquoi ? Pour nous apprendre, d'abord tu remercies, après tu existes. Mais d'abord, tu dois être dans le remerciement. D'ailleurs, un juif s'appelle « Yehudi ». Yehudi, ça vient du verbe « leodot », remercier. Pourquoi ? Parce que le propre du juif, ça doit être d'être en permanence en train de remercier. Lorsqu'une personne, elle rentre dans cet état d'esprit de reconnaissance, de remercier pour ce qu'elle a, elle arrive à lutter contre les pensées du manque. Elle arrive à être plus forte contre les pensées du manque. Et également, on a dit que le sentiment de manque est un manque d'émouna. Point ! Il faut le savoir. Il faut en être conscient. Lorsque je sens qu'il me manque quelque chose, maintenant ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier pour la chose. Bien sûr qu'il faut prier pour les choses. Une personne qui cherche à se marier ou avoir des enfants ou avoir une meilleure parnassa, c'est évident qu'elle doit prier pour ça. On ne peut pas rentrer dans ce sujet parce que c'est vrai que c'est un thème qui est assez profond, assez long. On le développera à l'occasion lorsqu'on parlera, si Dieu veut, de la tfila, de la force de la tfila par rapport à ce qui est décrété sur nous, etc. Mais bien sûr qu'il faut demander à Hachem. On dit qu'Hachem, il a fait que Noïmaot, Sarah, Rivka, Rachel, elles étaient stériles pour pouvoir qu'elles prient et qu'Hachem leur donne des enfants. Donc, il y a bien sûr qu'on doit demander à Hachem, c'est important. Parallèlement au fait de demander, il faut au moment précis, ressentir qu'Hachem m'a donné tout ce que j'avais besoin. Et ça, ça demande un travail d'émouna. Ça demande de travailler sa émouna. Ça demande de se renforcer dans la foi que ce qu'Hachem il a mis dans ma vie actuellement, même les épreuves que je traverse, même les manques que je ressens, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi à l'heure qu'il est. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi, en vérité, pour ma neshama, pour ma réparation, pour ce que je suis venue réparer, parce que vous savez qu'on est venu dans ce monde pour réparer quelque chose, ok? Parce que, a priori, vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'une personne qui n'a pas encore d'enfant, une personne qui est malade, en quoi est-ce que ça peut être bon pour elle? Mais ça, on ne peut pas le savoir. Parce que nos vies, elles ont commencé il y a bien longtemps. On vit en vérité ce qu'on appelle des gilgoulim en hébreu. On vient parfois réparer des choses. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais en vérité, il faut comprendre que Dieu, il voit tout le monde. Il voit notre vie depuis que notre neshama existait, depuis déjà, vous savez que notre neshama était déjà présente dans le corps d'Adam Harishon. Hachem, il voit tout le monde, tous les 5000 et quelques années, 5780 ans, il voit tout Hachem. Donc nous, on n'est pas capable de comprendre pourquoi est-ce que c'est bien. Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre vie, on voit même pas toute notre vie en entier. On voit ce qu'on est en train de vivre actuellement, ponctuellement, et c'est tout. Et en vérité, on n'est pas capable donc de voir toujours que c'est pour notre bien, c'est pour nous amener à quelque chose de bien, c'est peut-être parfois pour réparer quelque chose, c'est pour nous amener à prier, c'est pour nous amener à être meilleur. On ne sait pas comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que Dieu nous demande de lui faire confiance. Que même si ce que je traverse me paraît mauvais, c'est forcément bien pour moi. Et ce qui me manque, ce que je sens qui me manque dans ma vie, alors oui, je vais demander à Dieu de me le donner, mais parallèlement, je vais apprendre à développer mon regard positif sur ce que j'ai déjà, sur toutes les choses bien que j'ai déjà. Et se renforcer également en émouna. Comment est-ce qu'on se renforce en émouna, par exemple? En se répétant, j'ai tout ce qu'il me faut parce qu'Hachem pourvoit à tous mes besoins. C'est ça qu'elle veut dire cette bracha qu'on dit le matin. J'ai tout ce qu'il me faut parce que Hachem pourvoit à tous mes besoins. Vous savez que David Ameller nous dit, et emanti ki adaber, j'ai cru parce que j'ai parlé. Pour pouvoir se renforcer en émouna, il faut parler. Et il faut se répéter des phrases d'émouna. De la même manière que y a un enyan de répéter des phrases comme Gamzou le tova, ça aussi c'est pour le bien. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Il y a aussi un enyan de répéter des phrases comme ça, comme je viens de vous dire, en vérité, que vous pouvez également écrire dans vos mots. Là, c'est un exemple que je vous ai donné. J'ai tout ce qu'il me faut parce que Hachem pourvoit à tous mes besoins. Le mieux, c'est d'écrire des phrases dans vos mots, de choisir les mots qui vous touchent, de choisir les mots d'Emouna qui vous renforcent, les mots dans lesquels vous sentez que vous pouvez croire et que, à force de les répéter, elles vont devenir vous. Elles vont vous convaincre. C'est ce qu'on appelle à travers le fait de parler, de laisser une empreinte sur notre inconscient. Et à force de répéter des phrases comme celle-ci, d'ailleurs c'était un conseil déjà de Rav Israël Salanter, c'est vrai que ça apparaît beaucoup dans la psychologie, ce que je suis en train de vous dire, mais avant la psychologie, il y a « Nos Chachamim, nos Tzadikim », Rav Israël Salanter parlait donc de cette méthode de se répéter des phrases pour en vérité ancrer notre inconscient de ces notions. Donc, se choisir des phrases et se répéter. Hachem, ce qu'il fait, c'est bon pour moi. Je suis béni, je suis riche, je suis pleine de cadeaux. Chacune de choisir la phrase qui lui parle, la phrase qui la touche. Mais c'est vrai que ça aide à contrer le Yetzer Hara du manque, le Yetzer Hara qui veut toujours nous faire croire qu'il nous manque quelque chose dans notre vie. Alors voilà, notre émission touche à sa fin. J'espère que ça vous a apporté. Et pas simplement pour momentanément, mais que vous allez réfléchir là-dessus. Vous allez essayer maintenant vous-même de découvrir quel est votre Yetzer Hara, quel est le plus fort de tout ce qu'on a dit aujourd'hui chez vous, dans votre caractère, dans votre maison. Et Bezrat Hashem, on va continuer la semaine prochaine à développer autour de la Tshuva, de comprendre qu'est-ce qu'on fait pendant ce mois d'Eloul, comment est-ce qu'on se prépare à Rosh Hashanah Bezrat Hashem. En tout cas, j'étais très contente de passer ce moment avec vous. Je vous rappelle que si vous avez quelque chose à nous écrire, vous pouvez nous envoyer un mail à radio@torah-box.com. Et pour ma part, donc, je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine et je vous souhaite des bonnes nouvelles.
שיתגלה, אומר לו את הכל, את כל מה שביקשתי, לצעוק תמיד בקול. אומר לו רק תודה על כל מה שעשה, שבכל חיי על, עד הפעם בוא תנסה.